Livre des nombres.
Étude sur le chapitre 13. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, envoie des hommes et ils reconnaîtront le pays de Canaan que je donne aux fils d'Israël. Vous enverrez un homme pour chaque tribu de ses pères, tous des princes parmi eux. Et Moïse les envoya du désert de Paran selon le commandement de l'Éternel. Verset 2-4. Pour comprendre parfaitement ce commandement, nous devons le rapprocher d'un passage du Deutéronome où Moïse, repassant les faits de l'histoire merveilleuse d'Israël dans le désert, leur rappelle cette circonstance pleine d'importance et d'intérêt. Nous partîmes d'Horeb et nous traversâmes tout ce grand et terrible désert que vous avez vu, le chemin de la montagne des Amoréens comme l'Éternel notre Dieu nous l'avait commandé, et nous vînmes jusqu'à Kadesh-Barnéa. Et je vous dis, vous êtes arrivés jusqu'à la montagne des Amoréens, laquelle l'Éternel notre Dieu nous donne. Regarde, l'Éternel ton Dieu a mis devant toi le pays. Monte, prends possession comme l'Éternel, le Dieu de tes pères, te l'a dit. Ne crains point et ne t'effraie point. Et vous vous approchâtes tous de moi et vous dites, envoyons des hommes devant nous et ils examineront le pays pour nous et ils nous rapporteront des nouvelles du chemin par lequel nous pourrons monter et des villes auxquelles nous viendrons. Deutéronome 1, verset 19-22. Or, nous avons ici l'origine morale du fait exposé en nombre 13, verset 3. Il est évident que l'Éternel donna le commandement concernant les espions à cause de la condition morale du peuple. S'ils avaient été conduits par la simple foi, ils auraient agi d'après les paroles puissantes de Moïse. « Regarde, l'Éternel ton Dieu a mis devant toi le pays. Monte, prends possession comme l'Éternel, le Dieu de tes pères, te l'a dit. Ne crains point et ne t'effraie point. » Il n'y a pas un seul mot d'espion dans ce magnifique passage. La foi a-t-elle besoin d'espion quand elle a la parole et la présence du Dieu vivant? Puisque Jéhovah leur avait donné un pays, il valait la peine d'en prendre possession, et ne l'avait-il pas donné? Oui, vraiment. Et non seulement il l'avait donné, mais il avait rendu témoignage à la nature et au caractère de ce pays dans ses éclatantes paroles, « Car l'Éternel, ton Dieu, te fait entrer dans un bon pays, un pays de ruisseaux d'eau, de sources et d'eau profonde qui sourdent dans les vallées et dans les montagnes, un pays de froment et d'orge, et de vignes, et de figuiers, et de grenadiers, un pays d'oliviers à huile et de miel, un pays où tu ne mangeras pas ton pain dans la pauvreté, où tu ne manqueras de rien, un pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. » Deutéronome 8, verset 7-9. Tout ceci n'aurait-il pas dû suffire à Israël? N'aurait-il pas dû être satisfait du témoignage de Dieu? N'avait-il pas examiné le pays pour eux et tout ce qu'il leur en avait été dit n'était-il pas assez? À quoi bon envoyer des hommes pour épier le pays? Y avait-il un seul endroit depuis Dan jusqu'à Beersheba dont Dieu n'eut une entière connaissance? N'avait-il pas dans ses conseils éternels choisi ce pays pour la semence d'Abraham, son ami, et ne lui avait-il pas destiné? Ne connaissait-il pas toutes les difficultés et ne pouvait-il pas les surmonter? Pourquoi donc s'approchèrent-ils tous et dirent-ils, envoyons des hommes devant nous et ils examineront le pays pour nous et ils nous rapporteront des nouvelles? Ah, lecteur, ces questions s'adressent justement à nos cœurs. Elles nous dévoilent et rendent entièrement manifeste l'état où nous sommes. Ce n'est pas à nous de critiquer froidement les voies d'Israël dans le désert, de montrer ici une erreur, là une chute. Nous devons considérer toutes ces choses comme des types placés devant nous pour notre instruction. Ce sont des phares qu'éleva pour nous une main amie et fidèle, afin de nous détourner des dangereux bas-fonds, des sables mouvants et des écueils qui se trouvent le long de notre traversée et menace notre sûreté. Seul nous pouvons en être certains, la vraie manière de lire chaque page de l'histoire d'Israël, si nous voulons recueillir le fruit que notre Dieu nous a destiné en l'écrivant. Mais il se peut que le lecteur soit disposé à faire cette question-ci. L'Éternel n'avait-il pas expressément commandé à Moïse d'envoyer des espions? Comment donc était-ce un mal de la part d'Israël de les envoyer? Il est vrai qu'en nombre 13, l'Éternel commanda à Moïse d'envoyer des espions. Mais c'était une conséquence de l'état moral du peuple, comme cela est démontré par le chapitre 1er du Deutéronome. Nous ne comprendrons pas le premier passage à moins que nous lisions à la clarté du second. Nous voyons très distinctement par Deutéronome 1, verset 22, que l'idée d'envoyer des espions avait pris naissance dans le cœur d'Israël. Dieu vit leurs conditions morales et donna un commandement en parfait accord avec cette condition. Si le lecteur veut se reporter aux premières pages du premier livre de Samuel, il y trouvera quelque chose de semblable lors de l'affaire de l'élection d'un roi. L'Éternel commanda à Samuel d'écouter la voix du peuple et de leur donner un roi, 1 Samuel 8, 22. Était-ce parce qu'il approuvait leur dessein? Très sûrement pas. Au contraire, il déclara clairement que c'était positivement le rejeter lui-même. Pourquoi donc enjoint-il à Samuel d'élire un roi? L'ordre fut donné à cause de la condition d'Israël. Ils étaient fatigués de dépendre entièrement d'un bras invisible et soupiraient après un bras de chair. Ils désiraient ressembler aux nations qui les environnaient et avoir un roi qui sortit devant eux et qui fit la guerre pour eux. Eh bien, Dieu leur accorda leur demande et ils furent très vite appelés à éprouver la folie de leurs désirs. Leur roi fit une chute des plus complètes et ils durent apprendre que c'était un mal et une chose amère que d'abandonner le Dieu vivant pour s'appuyer sur un roseau cassé de leur propre choix. Or, nous voyons la même chose se produire dans le cas des espions. Il ne saurait y avoir aucun doute que le dessein d'envoyer des espions ne fut le fruit de l'incrédulité. Un cœur simple et confiant en Dieu n'aurait jamais pensé une chose pareille. Et quoi? Devons-nous envoyer de pauvres mortels pour inspecter un pays que Dieu nous a donné dans sa grâce, qu'il nous a décrit si pleinement et si fidèlement? Loin de nous cette pensée. Ah, disons plutôt, c'est assez, le pays est le don de Dieu et comme tel il doit être bon. Sa parole est suffisante pour nos cœurs, nous n'avons pas besoin d'espions. Nous ne cherchons pas de témoignage humain pour confirmer la parole du Dieu vivant. Il a donné, il a parlé, cela nous suffit. Mais hélas, les enfants d'Israël n'étaient pas dans la condition voulue pour tenir un tel langage. Ils voulaient envoyer des espions. Ils avaient besoin d'eux, leur cœur les demandait. Ce désir reposait dans les profondeurs mêmes de leur âme. Jéhovah le savait. Aussi donna-t-il un commandement en rapport direct avec l'état moral du peuple. Et Moïse envoya les espions, versets 18 à 28. C'était donc là la confirmation la plus complète de tout ce que l'Éternel avait dit sur le pays. Le témoignage de 12 hommes quant au fait que le pays découlait de lait et de miel, le témoignage de leur propre sens quant à la nature du fruit du pays. De plus, il y avait le fait parlant que 12 hommes avaient été réellement dans le pays, qu'ils avaient mis 40 jours à le parcourir dans tous les sens, qu'ils avaient bu de ses sources et mangé de ses fruits. Quelle aurait donc dû être, au jugement de la foi, la conclusion évidente à tirer d'un tel fait? Simplement celle-ci, que la même main qui avait conduit 12 hommes dans le pays pouvait y conduire toute l'assemblée. Mais hélas, le peuple n'était pas gouverné par la foi, il l'était par la sombre et accablante incrédulité. Et les espions eux-mêmes, ces hommes qui avaient été envoyés dans le but de rassurer et de convaincre le peuple, tous, sauf deux brillantes exceptions, étaient sous l'influence de l'incrédulité qui déshonore Dieu. En un mot, ce fut une affaire manquée. La fin ne fit que manifester le véritable état du cœur du peuple. L'incrédulité dominait. Le témoignage était assez clair. Nous sommes allés dans le pays que nous a envoyé. Et vraiment, il est ruisselant de lait et de miel. Et en voici le fruit. Il n'y avait absolument rien qui manqua du côté de Dieu. Le pays était bien ce qu'il avait dit. Les espions eux-mêmes en étaient témoins. Mais écoutons ce qui suit. Seulement, le peuple qui habite dans le pays est fort et les villes sont fortifiées, très grandes. Et nous y avons vu aussi les enfants d'Anak, verset 29. On est toujours sûr de trouver un seulement dès que l'homme est en jeu et que l'incrédulité est à l'œuvre. Les espions incrédules virent les difficultés, de grandes villes, de hautes murailles, des géants. Ils virent toutes ces choses, mais ils ne virent point Jéhovah. Ils regardèrent aux choses visibles plutôt qu'aux invisibles. Leurs yeux n'étaient pas fixés sur celui qui est invisible. Sans doute, les villes étaient grandes, mais Dieu était plus grand. Les murailles étaient hautes, mais Dieu était plus haut. Les géants étaient forts, mais Dieu était plus fort. C'est ainsi que la foi résonne toujours. Elle va de Dieu aux difficultés, elle commence par lui. L'incrédulité, au contraire, part des difficultés pour aller à Dieu. Elle commence par les difficultés, c'est ce qui fait toute la différence. Ce n'est pas qu'il nous faille rester insensibles aux difficultés ou être insouciants. Ni l'insensibilité, ni l'insouciance ne sont de la foi. Il y a des personnes nonchalantes qui semblent traverser la vie en ayant pour principe de prendre les choses par le bon côté. Ce n'est pas la foi. La foi regarde les difficultés en face. Elle voit très bien le côté pénible des choses. Elle n'est ni ignorante, ni indifférente, ni insouciante. Mais quoi? Elle introduit le Dieu vivant. Elle regarde à lui et s'appuie sur lui. Tout pour elle découle de lui. C'est là que se trouve le grand secret de sa puissance. Elle possède la conviction calme et profonde qu'il n'y aura jamais pour le Dieu Tout-Puissant une muraille trop haute, une ville trop grande, un géant trop fort. En un mot, la foi est la seule chose qui donne à Dieu sa vraie place. Aussi est-elle la seule chose qui élève l'âme complètement au-dessus des influences extérieures de quelque nature qu'elle puisse être. C'était bien le précieux fait qu'exprimait Caleb quand il disait « Montons hardiment et prenons possession du pays car nous sommes bien capables de le faire » verset 31. Tels sont les vrais accents de la foi vivante qui glorifie Dieu sans s'inquiéter des choses extérieures. Mais hélas, la grande majorité des espions n'étaient pas plus gouvernés par cette foi vivante que les hommes qui les avaient envoyés. Aussi, le seul croyant fut-il réduit au silence par les 10 incrédules. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent « Nous ne sommes pas capables de monter contre ce peuple » verset 32. Le langage de l'incrédulité était complètement opposé à celui de la foi. Celle-ci, regardant à Dieu, disait « Nous sommes bien capables de le faire ». Celle-là, regardant aux difficultés, dit « Nous ne sommes pas capables de le faire ». Comme il en fut alors, ainsi en est-il encore maintenant. Les yeux de la foi étant toujours gardés par Dieu, ne voient point les difficultés. Les yeux de l'incrédulité sont remplis des choses extérieures, ils ne discernent donc pas Dieu. La foi introduit Dieu. Alors tout est lumineux et facile. L'incrédulité exclut toujours Dieu. Alors tout devient sombre et difficile. Et ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient reconnu, disant « Le pays par lequel nous avons passé pour le reconnaître est un pays qui dévore ses habitants. Et tout le peuple que nous y avons vu est de haute stature. Et nous y avons vu les géants fils d'Anak, qui est de la race des géants. Et nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous étions de même à leurs yeux. » Verset 33-34. Pas un mot sur Dieu. Il est entièrement oublié. S'ils avaient pensé à lui, s'ils lui avaient comparé les géants, alors peu aurait importé qu'ils fussent eux-mêmes des sauterelles ou qu'ils fussent des hommes. Mais au fait, par leur honteuse incrédulité, ils rabaissèrent le Dieu d'Israël au niveau d'une sauterelle. Il est très remarquable que lorsque l'incrédulité est à l'œuvre, elle est toujours caractérisée par le fait qu'elle exclut Dieu. Cela se trouverait dans tous les âges, dans tous les lieux et dans toutes les circonstances. Il n'y a pas d'exception. L'infidélité peut tenir compte des affaires humaines, elle peut raisonner là-dessus et en tirer des conclusions. Mais tous ces raisonnements et toutes ces conclusions sont fondés sur l'exclusion de Dieu. La force de ces arguments dépend de l'exclusion et de l'éloignement de Dieu. Introduisez Dieu et tous les raisonnements de l'incrédulité s'écroulent sous vos pieds. Ainsi, dans la scène qui nous est retracée, quelle est la réponse de la foi à toutes les objections avancées par ces 10 incrédules? La seule qui soit simple, entièrement satisfaisante et qui n'admette aucune réplique, c'est-à-dire Dieu. Lecteur, connaissez-vous quelque chose de la force et de la valeur de cette réponse bénie? Connaissez-vous Dieu? Est-ce qu'il remplit toute votre âme? Est-il la réponse à chacune de vos questions? La solution de chacune de vos difficultés? Connaissez-vous la réalité d'une marche journalière avec le Dieu vivant? Connaissez-vous la puissance rassurante qu'il y a à se reposer sur lui à travers tous les changements et les hasards de cette vie éphémère? S'il n'en est point ainsi, laissez-moi vous solliciter de ne pas continuer à demeurer une seule heure dans votre état présent. Le chemin est ouvert. Dieu s'est révélé dans la personne de Jésus-Christ comme le secours, la ressource et le refuge de toute âme nécessiteuse. Regardez à lui maintenant, même tandis qu'on le trouve, invoquez-le pendant qu'il est proche. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, et celui qui croit ne sera point confus. Mais si, d'un autre côté, vous connaissez par grâce Dieu comme votre Sauveur, comme votre Père, cherchez donc à le glorifier dans toutes vos voies, par une confiance enfantine et entière en toutes choses. Qu'il soit une parfaite couverture pour vos yeux en toutes circonstances, et ainsi, en dépit de toutes les difficultés, votre âme sera maintenue dans une paix parfaite.